Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
La semaine dernière, dans le dernier épisode de Dramatis sur Mademoiselle, je vous ai parlé du Moonstrom Théâtre et vous avez pu entendre les 12 voix de Louis Arène et de Lionel Lingelser. Sauf que voilà, les épisodes durant 10 à 15 minutes, je peux pas vous mettre toute l'interview dedans, vous comprenez bien. C'est pour ça que vous pouvez découvrir dès aujourd'hui l'interview complète avec Lionel Lingelser et Louis Arène. C'est l'occasion d'en apprendre plus sur le processus créatif du Moonstrom Théâtre, de comprendre aussi la place qu'a l'écologie dans ce théâtre et enfin de parler de leur rapport au masque, le fameux masque auquel on résume trop souvent malheureusement le travail de la compagnie. Je suis Mathis Grosso et vous écoutez le bonus de l'épisode 14 de Dramatis.
Alors bonjour, moi je m'appelle Lionel Lingelser, je suis acteur et metteur en scène et co-directeur donc de la compagnie Moonstrom Théâtre.
Eh bien moi je m'appelle Louis Arène, je co-dirige le Moonstrom Théâtre avec Lionel et au sein de la compagnie je suis metteur en scène, comédien, scénographe et je suis facteur de masques aussi comme on dit.
Facteur de masques, alors qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que je fabrique des masques.
D'accord, c'est le fait de les concevoir.
Ouais.
Ok, super, trop bien. On aura l'occasion d'en reparler de cette fabrication de masques. Justement, comment vous en êtes arrivé au masque dans votre théâtre? C'est ce qui le caractérise beaucoup. C'est beaucoup comme ça que la compagnie est identifiée. Est-ce que c'était quelque chose qui était présent dès le début, dès la création de la compagnie, ou est-ce que c'est venu au fil des projets?
Du coup, je reviens juste sur la première question. On a créé la compagnie en 2012. Je l'ai implantée à Mulhouse. Avec Louis, on a décidé de commencer notre travail de laboratoire là-bas, là où moi je suis né, j'ai grandi en Alsace. Ça a été une belle aventure qui a commencé avec la scène nationale de Mulhouse, qui nous a ouvert ses locaux aussi, qui nous a proposé les premières résidences. Et le masque est arrivé tout de suite. C'était à notre sortie du conservatoire. On a fait le Conservatoire national supérieur d'art dramatique avec Louis dans les années 2000, 6, 5... 8, 9, et on a eu un vrai coup de cœur pour les cours de masque au conservatoire et de clown qui étaient dispensés par Mario Gonzalez et Christophe Patti à l'époque. Et ça nous a littéralement subjugués, sidérés, réalignés, réenchantés.
Alors, on peut dire que ça nous a beaucoup stimulés, oui, en tant que comédiens, parce que c'était un endroit vraiment de grand, de ludisme, de plaisir. C'était un endroit aussi où on travaillait beaucoup en improvisation, où on peut jouer un homme, on peut jouer une femme, on peut jouer un vieux, on peut jouer un enfant, on peut jouer un dieu, un concept, un objet, etc. Enfin, tout ce qu'on voulait. Donc, il y avait un endroit de créativité comme ça. On était stimulés, un endroit de créativité qui nous plaisait beaucoup. Et puis, on a été marqués par l'objet en lui-même, qui est l'objet théâtral par excellence, qui existe dans toutes les civilisations depuis presque la nuit des temps, pour faire du théâtre, bien sûr, mais aussi pour communiquer avec les dieux, pour des rites sociétaux, etc. Donc il y a eu une polysémie, l'objet nous a séduit aussi par tous ces aspects. Mais on peut dire que quand même, malgré tout, dans les cours qu'on a eu au conservatoire, le masque nous a été proposé vraiment dans un axe assez réduit, qui est vraiment très proche de la comédia, qui est un théâtre qui est forcément comique, qui travaille sur des personnages très archétypaux. Donc on s'est amusé là-dedans, mais nous, on avait l'intuition qu'on pouvait l'amener ailleurs. C'était une intuition qui s'était déjà réalisée parce qu'on avait été, enfin, pas par nous, mais parce qu'on avait été inspiré aussi par des grands spectacles comme Ariane Mouchkine qui avait travaillé le masque, ou bien Beno Besson, un spectacle de Beno Besson qui avait aussi travaillé le masque d'autres manières. Et on avait donc envie de retrouver, de réinterroger cet objet-là à l'aune de notre modernité, de nos préoccupations aussi, et puis de le confronter à des écritures ou à des textes pas forcément comiques justement, qui sont pas forcément liés à la farce, et parce qu'on avait envie de travailler sur l'ambiguïté et tous les paradoxes du masque, qui est aussi un objet qui permet d'aller bien sûr vers le comique, mais qui est aussi un visage figé, qui nous rappelle à notre condition mortelle, qui est aussi un objet qui peut être effrayant aussi.
Voilà. Et je pense qu'au conservatoire, ce dont on a la chance aussi, c'est d'avoir des multi-cours, quoi, avec des multi-univers, et de confronter le masque de Mario Gonzalez à côté des cours de Françon qu'on a eu, d'Alain Françon, Dominique Valadier. Ça nous a plongé aussi dans ce côté contemporain dont parle Louis, avec des auteurs comme Beckett, avec Édouard Bond, avec ces univers, peut-être on en reparlera, post-apocalyptique aussi à un endroit, subversif aussi, qui nous ont complètement séduits. On s'est dit qu'on allait peut-être nous être à la croisée de ces chemins-là et redonner au masque son goût de modernité, ou en tout cas qui allait plus parler à son contemporain que la Commedia dell'arte n'arrivait pas forcément à nous faire. En tant que spectateur, on n'arrivait peut-être plus à être plongé à fond, à y croire, entre guillemets, quoi. C'est souvent ce qu'on a eu comme retour. Mais on n'y croit pas, en fait, au masque.
Il y a quelque chose qui est intéressant à la fois dans l'échange qu'on a là et qui ressort aussi beaucoup dans votre travail, c'est qu'il y a un côté très émancipateur dans le masque, très libérateur. Et pourtant, le masque en théâtre, c'est quelque chose qui est aussi très codifié. On pense à justement des grands penseurs du théâtre, Jacques Lecoq. Il y a plein de gens qui ont été vraiment théoriser la chose et même y appliquer une série de codes, de règles presque à respecter. Je me demandais comment vous vous situiez par rapport à ça, surtout que vous venez d'un parcours du coup relativement classique. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû apprendre à maîtriser pour les subvertir? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez encore des lignes de code très claires que vous allez respecter malgré toute cette liberté que vous avez dans vos pièces ?
Je pense qu'on est très heureux d'avoir traversé cette pédagogie effectivement très rigoureuse qui nous a apporté beaucoup, mais pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir la transcender et inventer notre propre méthodologie aussi. Justement, on a été vraiment nourri par cette tension-là entre un art extrêmement codifié, technique. La première année de cours de masque, on fait pas de masque expressif, on fait que du masque neutre, c'est du travail de cœur, c'est très rigoureux, mais nous on a adoré ça parce que c'est un endroit de technicité, de libération, c'est des techniques qui t'apprennent aussi à être au présent sur un plateau, à être à l'écoute, à ne pas être en force, etc. Il y a d'autres méthodes, il y a d'autres façons de le faire, mais là le masque neutre en l'occurrence nous a appris ça, et voilà, il y a cette tension entre cette grande technique et puis la grande libération, comme tu disais, le plaisir du jeu, etc. Et nous, on continue à travailler avec ça, mais avec notre propre méthode, mais qui est plus intuitive, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que moi, par exemple, je pourrais pas diriger un chœur de masque neutre. Je me souviens plus du tout des règles. Lionel, il est beaucoup plus précis que moi sur la pédagogie parce qu'il en fait plus que moi aussi, donc il a encore un accès à tout ça, mais c'est vrai que moi par exemple c'est quelque chose que j'ai vraiment oublié, et c'est surtout qu'au Moonstrom on s'évertue à c'est un travail très technique évidemment, qui s'appuie beaucoup sur le corps, etc., et très précis, mais c'est une technique qui est très en mouvement, c'est une méthodologie qu'on réinvente aussi en fonction de chaque spectacle, ce que le spectacle nécessite, chaque dramaturgie est différente et nécessite un rapport au corps et au masque différent, donc on re-questionne ça à chaque fois, on commence même chaque spectacle en se disant que peut-être il n'y aura pas de masque, parce qu'il faut que le masque il soit aussi... il faut qu'il ait un sens. Pour nous, on essaie de l'utiliser vraiment comme un objet, un outil dramaturgique.
Qui oui, vous le réinterrogez, c'est pas un préalable.
Non, mais c'est pour ça qu'on, là, on parle du masque, mais nous, on se dit qu'on fait pas des spectacles de masque. Il se trouve qu'il y a du masque, mais il y a aussi des costumes. Il y a un gros travail sur les costumes, sur la scénographie, sur la lumière. On parle un peu plus du masque parce qu'on a moins l'habitude d'en voir sur les plateaux. Mais en fait, pour nous, il a la même valeur. On l'utilise au même endroit. Et quand on commence un spectacle, il est toujours pas loin le masque, mais on essaye de dire que c'est pas forcément un acquis, et il se trouve que dans le travail, petit à petit, on va lui trouver un sens, une force, une puissance esthétique et dramaturgique.
Je pense juste que de rappeler qu'en fait, de poser un masque sur le visage, en fait, ça nous impose à nous un langage, comme un alphabet. Cette géométrie dans l'espace, elle nous vient quand même vachement du masque. Et je reviens sur ce qu'on se disait pour juste un peu résumer, c'est vrai que de s'émanciper en fait, des règles et des codes, il a fallu au préalable les assimiler. Donc, je pense que ça, c'est la plus grande force que nous on a trouvé. En tout cas, moi déjà en tant qu'élève et après en tant qu'on va dire laborantin dans cette compagnie là, c'est de d'avoir des cadres et des règles très très précises. Et ça, c'est ce qui m'a aidé à être un acteur libre et joyeux. Je pense que ça, c'est ce qu'on avait envie vraiment d'expérimenter le plus possible. Et c'est vrai que ce masque posé sur le visage, il impose des regards précis, il impose un regard sur le public précis aussi. On joue pas d'une manière naturaliste avec un masque. Et pour autant, toutes les personnes et les acteurs et actrices qui sont dans ce spectacle sont passés par, entre guillemets, des maîtres de masque. On a tous eu une formation un peu traditionnelle. Et donc, je pense que c'est aussi grâce à ça qu'on arrive tous à transgresser aussi ces règles et ces codes, quoi.
Vous avez une patte qui est très présente au-delà du masque, justement, dans le travail que vous faites dans toutes les pièces. Et je trouvais que le quartier d'artistes de Montreuil a permis de montrer ça, justement, parce que vous aviez trois créations qui étaient à la fois extrêmement différentes. Et c'est-à-dire que si on avait été les voir à l'aveugle, à blanc, sans information, on aurait quand même été capable de tracer un fil, de voir vraiment des choses qui reviennent. Déjà, c'est un théâtre très physique, que c'est un théâtre aussi qui est un peu digressif, qui part des fois dans des parenthèses et qui, quand même, enfin, en tout cas, c'est mon interprétation, évidemment, mais qui nous emmène toujours à un point final. Je me demandais si c'était quelque chose que vous aviez conscientisé, est-ce qu'il y avait une patte Moonstrom ou est-ce que c'était quelque chose qui allait venir un peu malgré vous avec, je sais que typiquement Louis tu passes par des croquis par exemple, je sais que vous travaillez aussi avec Carole Lallemand qui gère le travail des masques justement, donc j'imagine que ces pattes à un moment ou un autre malgré vous de toute façon elles s'affirment, mais est-ce que c'est quelque chose que vous conscientisez ou pas dans vos créations?
Bah, j'ai l'impression qu'on peut laisser quand même les possédés d'Ilfurth de côté. Il y avait donc Lundstrom, les possédés d'Ilfurth, et puis donc Zypher Z. Dans toutes nos créations, effectivement, je pense que cette idée de créer ou de proposer notre vision des mondes d'après ou d'après une catastrophe, ces questions-là sont très présentes. Ça, c'était très important. C'est pour ça que je mets les possédés d'Ilfurth de côté, parce que c'était pas ou alors une catastrophe personnelle, quoi, quelque chose, une faille qui se serait créée à l'intérieur, quelque chose de plus introspectif, je dirais, qui me tenait à cœur d'aller réveiller quelque chose de plus personnel. Donc c'est aussi des catastrophes, hein. Et c'était une manière de soigner aussi, je pense. Mais dans nos autres créations, oui, on a des marottes. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous tient, et ça nous permet aussi de nous émanciper, d'aller loin dans les imaginaires, d'aller loin avec le spectateur, que de le faire accepter à un moment donné, de se dire bon bah là c'est peut-être même dans Zypher, on sait pas, c'était un peu rétro-futuriste, c'était même pas un futur, c'était peut-être même avant, on sait pas, ces robots étaient un peu de briques et de broc. Oui,
c'est très Métropolis.
Oui, ça, voilà, il y a ces inspirations là, ouais. Ou de Brésil, ou voilà, on était un peu dans ce...
C'est vrai que maintenant, on arrive un petit peu à le conscientiser, à en parler. Mais c'est vrai qu'au début, c'était assez instinctif. Quand on a commencé à créer la compagnie, on voulait parler des choses qui, nous, jeunes gens de 2010, 2012, nous heurtaient, nous questionnaient. Donc évidemment, il y avait
l'écologie.
Il y avait l'écologie. Et en fait, c'est revenu presque, mais un petit peu inconsciemment quand même, après, dans le spectacle d'après, ce thème des mondes d'après, effectivement. Mais qui est maintenant évidemment très présent, et encore plus depuis le Covid. Mais nous, je pense que notre spécificité aussi, c'est que contrairement à... C'est un thème qui est très très présent dans les médias, bien sûr, et puis dans tous les films, catastrophes américains, etc. Et on est vraiment... on est baigné dans cet imaginaire-là, mais je pense que nous, notre force au Moonstrom, et c'est la force du théâtre, je pense, c'est de le prendre vraiment comme un... De pouvoir s'extraire justement des représentations mortifères que nous imposent les médias et le cinéma, et pour en faire vraiment un parti pris poétique, en fait. Et une fois qu'on a accepté ça, nous permettre de rêver sur quels sont les nouveaux mondes à inventer, comment refaire société à partir de... Et puis, selon les spectacles, la catastrophe, entre guillemets, le monde d'après, il est très différent, quoi. C'est jamais le même parti pris. Donc, il y a cette chose-là, c'est vrai, qui revient régulièrement dans les spectacles. Et puis, la figure, bien sûr, et la figure du monstre aussi. Des personnages hors normes, des personnages extraordinaires. Qui nous permettent de questionner notre propre humanité ou notre propre monstruosité. Donc ça, c'est vrai que c'est des fils rouges qu'on tire depuis le début et qui continuent à nous exciter, je sais pas.
Et puis suivant les collaborations qu'on va faire aussi, ils vont changer. Même nous, avec Louis, on va être étonnés, on va être surpris. Quand on travaille avec Carole Lallemand, qui est plasticienne, marionnettiste aussi, donc qui a fait beaucoup là sur Zypher Z, ou Christian Lacroix sur 40 degrés sous zéro, notre spectacle diptyque copie qu'on avait fait il y a quelques années. Évidemment, on est aussi surpris par les propositions, et notre univers aussi se forge et se crée grâce à ces collaborations. On a envie aussi, voilà, le mariage forcé qu'on a fait à la Comédie Française, on avait des accessoiristes incroyables, voilà, les lumières, voilà, ça évolue aussi en fonction de nos rencontres. Et on se laisse surprendre aussi, quoi. On tire un fil dans la nuit, comme on dit, comme tu le dis des fois, Louis. Et on est surpris de ce qui arrive.
Oui, vous avez un univers qui n'est pas non plus borné. Et c'est l'avantage, c'est que chaque spectacle vient finalement repousser certaines limites ou créer autre chose, en tout cas. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Je voulais revenir aussi sur la question de l'écologie que vous avez un petit peu abordée. Et je pense que ça pourrait être intéressant de se pencher dessus. L'écologie et le théâtre, c'est des choses qu'on a rarement tendance à associer. On a rarement tendance à même penser la question écologique dans le théâtre autrement que comme un sujet. Donc évidemment, il y a des thématiques de catastrophes qui viennent dans vos spectacles, mais il y a aussi le fait que dans vos spectacles, finalement, si on regarde bien, il n'y a pas 36 000 décors qui vont être jetés après, il n'y a pas 36 000 mêmes costumes en fait qui vont être jetés. Finalement, ce que vous faites, c'est toujours assez simple, très efficace, mais toujours assez simple. Est-ce que c'est quelque chose pareil qui est conscientisé, ou est-ce que c'est quelque chose qui en fait se fait, et tant mieux pour la planète au passage?
Au début, ça venait du fait que
quand on avait l'argent, on n'avait pas de moyens.
Ça commence donc on a beaucoup travaillé avec de la récup. Et puis après, il y a le plaisir de ça et l'engagement que ça nécessite. Et enfin, on en parle souvent avec les créateurs, effectivement, que ce soit au costume, avec Véronique Nguyen qui avait créé toutes les coiffes sur 40 degrés sous zéro. C'était vraiment la consigne. C'était il faut que ce soit que de la récup, des trucs trouvés dans les poubelles ou voilà, des trucs dans les fonds de placard. Et on a presque réussi à le faire. Après, pour les costumes, c'est quand même plus compliqué, mais on essaye toujours d'avoir.
À la Comédie Française, on l'a fait aussi.
À la Comédie Française aussi, on l'a fait. Ouais, ça, à la Comédie Française, c'était important. Je voulais vraiment qu'on aille fouiller dans les. Puis il y avait une chose, il y avait un aspect émotionnel aussi, d'aller chercher dans les vieux costumes, des vieux sociétaires, des acteurs qui sont, des actrices qui donc, il y a encore les noms sur les étiquettes, sur les costumes, les acteurs qui sont plus là, les acteurs qui sont morts, etc. Donc, et les nouveaux comédiens, comédiennes des spectacles portaient ça. Mais ça, c'était un autre projet un peu, c'était un autre projet qu'un projet écologique.
Mais il y a quand même cette idée de redécouvrir.
Mais il y avait cette idée de récup.
Aussi, ouais. On essaye quand même le plus possible de pas dépenser, des centaines de milliers d'euros pour de la scénographie.
Mais c'est parce qu'on a le goût de l'artisanat aussi.
Et ça vient peut-être du masque aussi, de cet artisanat, oui. de ce langage-là dont je parlais tout à l'heure, cet alphabet qui fait que le masque engendre aussi peut-être un artisanat un peu particulier qu'on accepte aussi, je pense au Moonstroom, quoi. Mais par exemple, dans Clownstroom, évidemment, on a carrément un camion là, c'est une décharge, quoi. Ouais. Et là, c'est vraiment que
et
de la récup.
C'est pareil, ouais, c'est que des trucs trouvés dans les poubelles.
Trop bien. Et en tout cas, oui, c'est vrai que Clownstroom, c'est l'exemple peut-être le plus jusqu'au boutiste là-dessus, parce qu'on vraiment, on a l'impression d'avoir un monde post-apocalyptique. On aura l'occasion d'en reparler. Je voulais revenir justement peut-être sur ce quartier d'artistes au Théâtre Public de Montreuil. Donc, c'est la première édition. C'est quelque chose qui a été lancé par Pauline Bayle cette année. Je me demandais quelles possibilités cette carte blanche d'un mois, ça vous avait offert. Quelle avait été la réflexion autour de ça? Est-ce que vous avez hésité, par exemple, dans le choix des spectacles que vous avez proposés, parce que ce n'est pas des créations pour donc, ce quartier d'artistes, c'est des spectacles qui tournaient déjà pas mal. Pareil, voilà, il y a eu une table ronde, il y a eu des projections, une exposition. Ça a été quoi la réflexion dans le choix de tous ces matériaux-là?
Première réflexion, effectivement, c'est comme si, quelque part, on nous donnait les clés d'un endroit. C'est comme si, déjà, de dire, est-ce que déjà ça vous dit de venir pendant un mois chez nous et de présenter un peu tout ce que vous avez en banque, quoi. Alors déjà, ça participe à cette réflexion qu'on a de faire tourner les œuvres. Nous, on fait pas des spectacles, déjà, on met longtemps à les créer. Nos spectacles, on les met au moins 2 ans à chaque fois, donc il y a pas beau. Enfin, on a 6 créations là depuis 11 ans de compagnie. Voilà, c'est bien, mais je veux dire, on crée pas tous les 6 mois, quoi. Donc aussi, c'est important que le répertoire, on va dire entre guillemets, tourne. Donc là, c'était une occasion déjà de faire circuler ses œuvres pendant 3 semaines et puis avoir des projets satellites. Donc on arrive, on a un peu les clés de la maison et on se rend compte que c'est un bonheur total que de rencontrer tous les départements du théâtre, que de travailler avec tous les services, de connaître chaque personne qui travaille. Et ça, c'est très rare. On a l'habitude de faire des tournées des fois de 50, 100, 150, 200 dates par an. ou tout, voilà, pour, sur quelques saisons. Et on rencontre personne, parce qu'on est tout le temps sur les routes, voilà, entre les hôtels, et voilà. Et on enchaîne ça un peu d'une manière un peu consumériste, même, je pourrais dire. Et ça, c'est, ça a des fins aussi, quoi. Moi qui l'ai beaucoup fait aussi, j'étais beaucoup en tournée avec des spectacles. Voilà, je me suis rendu compte aussi qu'on a du mal à créer vraiment des liens, quoi. Et dans ce monde-là où en ce moment, je crois que c'est un des sens premiers, on essaie de recréer du lien. Ça a été, pour moi, un de ces maîtres mots de ce mois-là, on a mis 3 mois pour préparer quand même ce quartier d'artistes en amont. Et ben voilà, on connaît tout le monde, on est amoureux de tout le monde. Ça a été comme si, ouais, on a trouvé une maison. Pauline nous a vraiment donné un bac à sable géant dans lequel on a pu proposer des choses et tout a été retenu. C'est pour ça qu'on a été aussi gourmand et en même temps, ça a pris, quoi. Effectivement, ces expositions, ce livre qui est sorti, cette soirée clubbing quand même à la Marborie avec un collectif queer, high collectif. Mmh. Avec cette conférence sur le masque, en fait, on a pu aussi inscrire dans le temps, dans l'espace, dans l'histoire, notre recherche sur le masque qui est pas anodine, c'est vrai. On le revendiquait pas trop, mais on est heureux aujourd'hui de dire aussi qu'on compte dans ces petits artisans qui essayent de donner vie encore à cet outil ancestral dont parlait Louis tout à l'heure. Et puis explorer aussi, donner à avoir aussi un public qui nous suit. C'est ça aussi, explorer et fidéliser un public. Là, ça a été une preuve vivante de ça. Les gens nous ont suivis sur les 3 spectacles. Même plusieurs fois, ils sont revenus. Ils ont fait la queue en liste d'attente. Enfin, ça a été... c'était un mini-festival, quoi. Et de faire découvrir, en plus de tout ça, des lieux secrets, comme on a pu le faire pour les clowns qui étaient un spectacle en extérieur, ça donnait aux Montreuilloises et Montreuillois l'occasion aussi de découvrir un lieu peut-être devant lequel ils passent tous les jours et ils soupçonnent même pas que là il y a peut-être un espace incroyable dans lequel bah peut-être ils se souviendront toute leur vie parce qu'on a eu 50 minutes de spectacle hors temps comme ça, voilà. Donc il y a eu 3 spectacles dans la grande salle place Jean Jaurès, il y en a eu salle Cazares qui est une moyenne salle et puis donc il y a eu les Chaudronneries qui est donc un ancien espace voilà, comme une fonderie, quoi, assez spectaculaire, on peut le dire, quoi. Donc, pour le public, pour nous et pour les équipes même de théâtre, de rester longtemps avec une compagnie, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel.
Il y a un paradoxe que je trouve très intéressant aussi dans votre théâtre, c'est que vous parlez du temps long que vous avez pour les créations, pour peut-être les réflexions même autour des créations. Et paradoxalement, on a un sentiment d'urgence très fort dans ce qui s'exprime dans votre théâtre. Je pense même au rythme de Zypher Z, j'ai cru comprendre que vous l'aviez accéléré sans faire de coupe, que vous aviez réduit le temps tout simplement en accélérant le rythme. Est-ce que déjà c'est vrai? Et qu'est-ce que ça a été? C'est quoi ce besoin d'urgence qui s'exprime dans votre théâtre?
Oui, bah, le spectacle il s'est trouvé au fur et à mesure des représentations, parce que ça a été un accouchement très, très difficile, Zypher, parce que on a été très ambitieux, on a été très gourmand, on a écrit le texte, la scénographie, la mise en scène, tout se faisait en même temps et on n'était pas du tout prêt à la première. Enfin, on était, on a présenté un spectacle à la première quand même, mais on a continué à le travailler beaucoup ensuite. Et effectivement, il a trouvé son rythme de croisière, mais pas tout de suite. On a coupé des choses, on a réagencé un peu des scènes, et puis effectivement, trouver l'endroit de jeu, quoi, qui est un peu plus urgent que ce qu'il était à la base. Ça, je pense que c'est vraiment lié à l'énergie de base qui fonde notre travail et qui est aussi ce qu'on recherche chez les spectateurs, c'est se connecter à une énergie de vie, à l'énergie primaire de vie, après ça pourrait presque aller vers quelque chose d'un peu spirituel aussi, mais en fait c'est ça qui nous anime, c'est animer chez nos spectateurs et donc avant tout en nous une puissance de vie, une joie à être au monde et donc c'est avec cette énergie là qu'on travaille, c'est cette chose là qu'on convoque en premier et pour nous techniquement dans notre travail de comédien comédienne c'est travailler avec le plaisir, c'est vraiment une donnée essentielle de notre travail, le plaisir. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait des choses par-dessus la jambe, au contraire, c'est comment allier ce plaisir à une vraie rigueur aussi. Et puis, encore une fois, travailler sur la joie sans être naïf, ça veut dire aussi, avant de monter sur un plateau, il faut prendre conscience de la douleur du monde. Ça ne veut pas dire qu'on parle de choses qui restent à la surface. On essaie d'embrasser des thèmes quand même complexes, des endroits de noirceur, bien sûr. Notre théâtre, il est aussi
l'objet masque permet ça. Il est pétri de, d'ombre et de lumière à la fois. Et pour donner vraiment de la valeur à cette énergie-là de vie, de joie qu'on cultive et qui est essentielle pour nous, bah parfois, il faut quand même, aller, il faut quand même plonger dans les ténèbres, quoi.
Oui, non, on met, non, c'est vrai, on met longtemps à les faire et tout, mais... mais une fois qu'ils sont là, on en profite et on a, je crois qu'on n'a pas envie aussi de... On a envie que les œuvres, elles restent, quoi. On a envie qu'elles restent gravées dans le cœur des gens, dans la tête des gens aussi, effectivement, quand on voit tous les spectacles qui sont proposés au public. On a la chance, quand même, en France, d'avoir cette abondance de spectacles, mais qui peut aussi nous noyer aussi à des moments. Je crois que, voilà, les spectacles au Monstrum, on a envie qu'ils restent, ouais, longtemps. Donc cette énergie, elle est...
Oui, donc il y a un truc où l'expérience doit être exceptionnelle, quoi. Nous, on veut pas perdre notre temps parce que c'est trop précieux et on veut pas faire perdre le temps des spectateurs aussi parce qu'on a beaucoup de jeunes spectateurs. Donc il y a une responsabilité aussi face à cette jeunesse-là et on met la barre un peu haute, quoi, pour qu'effectivement l'expérience, ces 2 heures ou 1 heure qui vont passer avec nous, ce soit un moment d'intensité, de vie, de vibration, et que c'est ça qui compte. Et c'est tout aussi important pour nous, cette chose-là, que le sens, on va dire, que le côté intellectuel ou le sens des œuvres qu'on va porter. Bien sûr, c'est important, les auteurs qu'on monte, mais on fait pas un théâtre intellectuel et l'énergie, cette énergie de vie qu'on va communiquer, sur laquelle on travaille, elle est tout aussi importante que le nouveau regard qu'on peut apporter sur un texte de Mayenburg ou sur Copie. Voilà.
C'était une question justement que je voulais vous poser. Qu'est-ce qui avait motivé le choix de ces textes? Parce que du coup, donc Cypher Z, c'est un texte dont vous êtes les auteurs, mais là, pour le coup, c'est d'autres univers et auxquels vous devez plus ou moins vous adapter. Et ça se voit notamment sur Les Possédés d'Il Furst, qui est un peu différent là-dessus, qui est donc le texte de Yann Verbu. Qu'est-ce qui a motivé ces choix-là précisément? C'est certainement des cas par cas, mais est-ce qu'il y a...
Non, c'est pas des cas par cas. C'est vraiment un trajet. C'est chaque projet en fait naître un autre. Le tout premier spectacle de la compagnie, c'était une création collective, à nouveau une fable dystopique où un peu naïve, mais pour lequel on posait les bases de esthétique, en tout cas de la compagnie. Il y avait un premier travail sur le masque, mais les masques étaient différents, étaient plus expressifs. Et puis après ça, on a eu vraiment, une fois qu'on était un peu rodé à cet endroit-là, on a vraiment eu envie de s'attaquer à une écriture contemporaine. Et puis avec Lionel, on est tombé sur ce texte magnifique de Marius von Mayenburg qui s'appelle Le chien, la nuit et le couteau, qui est aussi une œuvre très nocturne entre Kafka et David Lynch, enfin avec une poésie. Voilà, où l'ombre et la lumière sont vraiment mêlées, c'est presque une histoire de vampire ou de... C'est pareil, c'est un peu les derniers survivants après la fin du monde, et c'est une méditation sur l'amour, la dévoration, etc., qui est sublime. Mais qui est quand même une fable assez sombre. Et donc après ça, on a eu envie d'aller vers une écriture d'aller dans la farce, d'aller dans le comique, et puis on s'est souvenu de Copie qu'on avait découvert au conservatoire, et donc on a eu envie de plonger à fond dans une écriture comique.
Donc on en a monté deux.
On a monté deux en un, ouais.
L'homosexuel, ça, la difficulté s'exprimer, et les quatre jumelles.
Voilà, réunis sous un spectacle qui s'appelle 40 degrés sous zéro, qu'on va reprendre la saison prochaine d'ailleurs, avec grand plaisir. Et puis suite à ça, à nouveau, on s'est dit oh, mais maintenant on a notre univers, on a cette énergie de travail, on a notre groupe qui est constitué. On avait envie à nouveau de franchir le grand saut et puis un pas un peu plus important et d'écrire notre propre fable aussi. On avait envie de mettre toute notre folie, tout notre savoir-faire au service d'une écriture vraiment contemporaine et à la fois qui soit aussi une écriture de plateau, qui soit aussi travaillée à partir d'improvisation et puis de mettre en forme toutes nos délires les plus absurdes parfois. Donc ça a donné Cypher Z. Et puis c'est très organique, en fait. Et puis en parallèle, il y a eu Lionel qui avait ce besoin en lui de travailler sur son histoire personnelle liée à cette vraie histoire des possédés d'Il Furst, donc les deux derniers cas de possession avérés par l'Église qui ont eu lieu en Alsace, et le relier avec son histoire personnelle. Justement, après, c'est en parallèle une grande forme très collective comme ça, où il y a beaucoup de monde, bah, il a eu cette envie aussi de se retrouver, lui, en tant que comédien, en tant que metteur en scène aussi, sur un projet beaucoup plus intime, beaucoup plus petit.
Et comme le disait Louis, je pense que c'est des réponses à chaque spectacle, là où on a fait du grandiloquent, là où on a fait du, on va dire aussi de la puissance visuelle, parce que c'est ça aussi qu'on propose au Moonstroom, quoi. C'est des, je pense que c'est une émotion qui est sensitive, c'est une émotion qui est sensorielle aussi, qui se joue avec la lumière, qui se joue avec le son, et sans nous le reprocher, mais je sais que voilà, il y a des gens qui restent aussi sur la forme chez nous, et je sais qu'on est des comédiens aussi viscéraux, qu'on est des comédiens aussi de texte, on a appris le texte aussi, on a appris à les aimer, c'est littérature au conservatoire notamment et même avant, mais j'avais aussi envie de prouver, je crois, avec les possédés que ben, sous le masque, regardez quels acteurs il y a aussi et quelles actrices. Alors bien sûr il y a l'énergie, mais il y a aussi la puissance du cœur, là où on voit voilà, peut-être la puissance scénique, la puissance visuelle. Là j'avais aussi envie d'aller dans les tréfonds aussi de, je pense, de l'âme et de je parlais tout à l'heure de soins, mais de voilà, de créer un rituel guérissant et d'aller vraiment aussi chercher à un endroit où peut-être on nous attendait pas, sous ce masque où l'émotion est difficile à faire surgir. Et ben là on va garder le masque peut-être juste avec les mains et vraiment aller, grâce à la plume aussi quand même de Yann Verburg, il faut vraiment le dire quoi, qui m'a vraiment accompagné dans ce voyage magnifique et qui est allé chercher cette puissance, on va dire, du cœur que je cherchais absolument, tout en racontant l'histoire du masque, ça qui était génial. C'est-à-dire que ça reste presque une séance magistrale de théâtre, où je suis en train vraiment, moi, de travailler sur le plateau en tant que comédien avec un metteur en scène. Je fais les deux personnages, hein, je fais une quinzaine de personnages dans Les Possédés. Et en même temps, le public assiste à ça aussi, de voir un acteur au travail sans rien. Parce que, en pendant de Zypher Z, là, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de décor. Enfin, je ne suis pas nu, hein, mais quoique. Mais il y a un travail sublime de lumière, mais il y a vraiment un plateau vide. Et c'est ça que j'avais envie de chercher chez le spectateur, travailler avec son imaginaire. Et puis. Voilà, le relier à mon humanité profonde.
C'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement surprenant. On arrive dans la salle, on voit le plateau nu, et je me suis dit, merde, est-ce que je me suis pas trompé de salle, quoi. C'est le, t'arrives au cinéma, tu vois le début, tu dis, c'est pas du tout ce que j'attendais de tel ou tel metteur en scène, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi que, à la fois, vous proposez énormément de choses que je trouve assez inédites. Moi, je sais qu'en tant que spectateur, parce que avant d'être critique, avant d'être journaliste, d'être quoi que ce soit, en vérité, je suis un spectateur comme les autres. J'adore avoir ce sentiment au théâtre, et pourtant, j'y vais beaucoup, de me dire, waouh, j'ai jamais vu ça. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti devant vos créations. Et en même temps, vous avez des créations qui sont beaucoup en réaction, donc les unes par rapport aux autres, c'est ce que vous venez d'expliciter un petit peu, mais aussi par rapport à des attendus, parfois. Vous explorez beaucoup le ringard. Je pense notamment à des moments où vous l'avez même dit explicitement, je crois que c'est dans Les Possédés pour le coup, il y a tout ce truc sur l'accent, sur le mime. Moi je me rappelle d'un stage de clown que j'avais fait dans mes années théâtre où on m'avait dit le mime c'est ringard, et je trouvais ça intéressant que ça résonne, parce que je pense qu'en effet il y a plein de comédiens, de comédiennes à qui on a répété des trucs en disant mais non mais ça c'est fini, ça c'est passé, etc. Et il y a beaucoup de choses où vous êtes en réaction à ça. Et même le masque, je pense que certaines personnes doivent dire que de toute façon, c'est fini, que c'est plus à la mode, que c'est passé. Est-ce que vos réflexions là-dessus partent d'une révolte par rapport à tout ça, ou est-ce que c'est juste que vous vous en foutez complètement de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, de ce qui ringard, de ce qui ne l'est pas?
Ouais, je pense que c'est plus la deuxième option. Non, mais c'est vrai, c'est absurde. C'est des dogmes un peu. C'est une pensée un peu vieille et bourgeoise aussi de limiter les choses comme ça. C'est des outils formidables qu'on a à notre disposition, et c'est pas parce qu'on fait plus de mimes bien ou de masques bien que c'est ringard. Enfin, je dirais que c'est des outils magnifiques à re-questionner toujours.
Et après, la force du travail aussi, c'est de les opposer. C'est-à-dire que de pas être dupe aussi de ce qu'on fait, c'est-à-dire de les révéler. C'est-à-dire que quand je dis à un moment donné dans le spectacle, effectivement, les accents, c'est ringard, alors que moi, je fais que des accents pendant tout le spectacle, c'est que tout de suite, je désamorce. Et le public s'approprie aussi ça, quelque part. Il se l'apprivoise aussi avec moi, parce que je suis pas dupe. Et on en parle souvent avec lui, et c'est vrai, ces oppositions que permettent le masque, notamment, mais ces grands écarts entre le kitsch et le sublime, le grotesque, le sacré, enfin on le dit beaucoup.
C'est vraiment sur ça qu'on travaille.
S'il y a du sombre, il y aura de la lumière derrière. S'il y a à un moment donné quelque chose d'ultra ringard, peut-être qu'on va essayer de créer une image sublime derrière.
C'est là que naît la poésie, quoi, entre ces tensions. Mmh. Et le masque nous permet ça, mais maintenant on arrive vraiment à le conscientiser, à le travailler vraiment. Enfin, je veux dire, le grand théâtre, il parle de ça aussi. théâtre de Shakespeare aussi, il parle, il travaille avec, il est pétri de ces paradoxes-là. Une chose peut être vraie et fausse à la fois sur un plateau, belle et ringarde à la fois. Ça dépend comment on l'utilise. Et ça, c'est quelque chose qu'on conscientise de plus en plus et que je trouve qu'il y a un domaine à explorer qui est très joyeux, quoi. Qui est très joyeux et très ludique. Parce que justement, on oublie un peu tout ce qu'on nous a appris, ou tout ce, qui est, ce qu'on est censé faire ou ce qu'on n'est pas censé faire, ce qui est bien, ce qui est mal.
Et c'est comme si tout était possible. Tu vois, un des grands retours qu'on a, nous, du public, c'est on pensait pas que c'était possible de faire ça au théâtre. Mais c'est hyper beau d'entendre ça à chaque fois, quoi. C'est comme si, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais on donnait la possibilité de dire, ben oui, faites-le, en fait. Juste faites-le. Vous avez des rêves. Moi, pour la petite histoire, Les Possédés d'Ilfur, j'avais une liste secrète de tout ce qu'on avait toujours interdit de faire au théâtre. Donc les accents, le mime évidemment, de faire du corps, de faire des grimaces. Moi je suis un acteur hyper grimacier. J'avais une liste secrète, j'ai dit un jour je vais le faire. Et je l'ai fait. Et je pense que c'est pas de la blague pour autant, et je pense que je me moque pas des gens pour autant. Les gens sortent quand même assez bouleversés de ce spectacle. Et puis en même temps avec une expérience physique, parce qu'effectivement moi je me considère comme un acteur athlétique aussi et physique. Enfin je sais que c'est aussi une émotion que de voir quelqu'un en sueur en face de nous qui pendant une heure et demie a... Bah, tout donner, moi je sais que je fais pas semblant. Donc en fait, tout ça participe à ce qu'à un moment donné, ça soit grand, quoi, que l'expérience soit grande et qu'on accepte beaucoup de choses.
Et ça se fait pas, enfin, c'est vraiment un travail aussi, c'est difficile, c'est-à-dire qu'effectivement, à chaque projet, il y a au moins toujours une chose, enfin, il y a toujours quelque chose qu'on n'a jamais fait. On s'attaque à quelque chose, à un domaine, que ce soit l'écriture, enfin, il y a toujours des challenges, quoi, parce que sinon, on s'ennuie. Mais c'est un vrai travail de faire ça, quoi. C'est un vrai travail de sauter dans le vide et de se coltiner à quelque chose qu'on n'a jamais fait, quoi. Mais par exemple, le spectacle de clown, on l'a fait comme ça. Enfin, on avait des vieux vagues souvenirs de cours de clown du conservatoire, mais.
Et très vite on s'en empare, c'est comme souvent on nous dit mais vos maîtres ils vont pas, qu'est-ce qu'ils vont dire aussi en voyant votre travail, est-ce que ça va être critiqué, est-ce qu'on a le droit de désacraliser comme ça le masque notamment, mais je sais pas, d'autres choses. Et je crois que très vite en fait les artistes sont là pour ça, pour s'emparer de ce qui a été fait et de donner leur propre vision. Il n'y a pas de règle, enfin je crois qu'il n'y a pas de règle, quoi. C'est important d'avoir la connaissance du passé, ça c'est très important, je pense en architecture on commence pas comme ça, de savoir un peu comment Paris a été fait pour peut-être construire la nouvelle tour qui va être sur notre chemin tous les jours. Je crois que c'est pareil pour nous, mais de s'en saisir. Je veux dire, quand les spectateurs viennent nous voir en disant oh, mais moi aussi j'ai envie de faire ça, j'ai dit mais allez plus loin, bien sûr, prenez cette énergie là et c'est voilà, vous êtes inspiré par peut-être ce que vous avez vu, mais tout de suite remodelez-le, quoi. Ça, j'ai rien de fait. Enfin, il s'agit pas de faire du copier-coller, et pourtant nous on a l'épuisé et Dieu sait qu'on a des inspirations, mais je crois que c'est notre plus grande peur aussi, que d'un moment donné ne plus savoir quoi faire ou d'avoir des recettes entre guillemets, de dire bon maintenant on sait plus quoi faire, on va prendre n'importe quelle pièce et on va plaquer notre univers dessus. Bon, pour l'instant voilà, on essaie de réinventer à chaque fois et on se dit toujours avec lui qu'on va révolutionner le théâtre à chaque pièce, même si c'est un peu mégalo et que c'est un peu utopiste. C'est notre essence, c'est notre carburant, parce que sinon effectivement on n'y va pas. Et comme disait Louis, c'est vrai que chaque création il y a une nouveauté, quoi. Donc on verra la prochaine.
Et ce qui est intéressant, c'est que vos créations sont généreuses dans le sens où, bon, évidemment, il y a le point de vue investissement où vous donnez beaucoup de votre personne, vous mouillez le maillot, mais il y a aussi généreuse d'un point de vue représentation. Vous proposez plein de choses et inédites. Et en même temps, dans ces représentations, il y a des espaces, je trouve, qui font que vos créations ne sont jamais verticales, si ça fait sens, dans le sens où vous ne surplombez pas, vous n'êtes pas en train de faire une espèce de masterclass de théâtre.
Pas du tout.
Et c'est ce qui s'est ressenti beaucoup dans le bord plateau justement après Les Possédés, où en fait je me suis rendu compte que les gens avaient beaucoup d'interprétations différentes, que ce soit sur cette pièce et puis il y a aussi beaucoup eu 40 degrés sous zéro qui avait fait réagir dans l'échange. Et justement sur Les Possédés tu disais quelque chose qui était intéressant, c'est que tu parlais des différentes possessions qu'il y avait dans le spectacle. Tu parlais de la possession par donc le diable, qui est l'histoire un peu originale du village, la possession qui est sous forme d'emprise dans une relation, et la possession par le masque. Je me demandais si tu pouvais expliciter ces trois points, parce que je trouvais ça intéressant dans un bord plateau, et comme à chaque fois que j'entends quelque chose d'intéressant dans un bord plateau, je suis frustré qu'on soit 4 dans la salle et pas 6000, 7000. Faudrait faire des bords plateaux en Stade de France globalement, mais
alors expliciter ça Il faudrait qu'on en parle avec Yann, hein, qui a aussi écrit quand même, qui a écrit le texte. Mais oui, ça a été la clé de voûte en fait de ce spectacle, c'est de décliner cette notion, parce que je crois que c'est parti d'une question très simple de Yann qu'il m'a posée dans les témoignages qu'on a fait, donc en préparant le texte, c'est quelles sont tes plus grandes injustices en fait dans la vie. Et je pense que très vite est venue cette notion du dominant-dominé, d'avoir une emprise sur quelqu'un. Et je me suis dit, effectivement, moi, si j'avais un rêve, ça serait qu'effectivement, dans cette vie, il n'y a plus de quelconque emprise, qu'un individu ait quelconque emprise sur un autre individu. Qu'on soit, entre guillemets, tous égaux. Et que, voilà, c'est un peu parti de ça. Quand je lui ai proposé effectivement ces histoires de ces deux garçons, la possession, elle s'est très vite révélée comme le nœud et sur lequel on allait pouvoir surfer d'une manière assez facile, quoi. Alors bien sûr, il y a un côté religieux qui fait que la possession par le diable, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui ? On peut être possédé aussi par, je sais pas, on pourrait dire que le diable c'est la drogue aussi, ou je sais pas, ou ça pourrait être la cigarette, ou ça pourrait être quelque chose de néfaste pour nous. Mais comment à un moment donné on s'en détache. La possession effectivement du petit garçon par un de ses camarades, voilà, on est là vraiment dans le dominant-dominé, mais on pourrait aussi, ou comme dans ces scènes avec le metteur en scène, qui pourrait s'appliquer à n'importe quel domaine aussi de l'entreprise, dans n'importe quelle hiérarchie aujourd'hui dans le travail, on a des boss comme on dit, et puis ben voilà, on peut être sujet à ça. Donc c'était aussi de tirer le fil de l'universel, c'était très important pour nous dans ce spectacle que d'un thème très 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 personnel, on arrive à toucher l'universel, quoi. Et après, le thème de la possession par le masque, évidemment, mais moi c'est tout ce que j'ai découvert la première fois que j'ai mis cette matière sur le visage, qui m'a complètement bouleversé, où j'ai pleuré, enfin je me suis dit c'est ça que je veux faire toute ma vie, c'est grâce à ça que je vais pouvoir peut-être dire le mieux qui je suis vraiment, alors que je suis caché, que je suis courbé, que je suis dans mes genoux, que je suis complètement pas reconnaissable. Et donc cette possession là, je sais pas, il y a quelque chose aussi... quelque chose de, je pourrais dire, transcendantal, quelque chose qui me dépasse. Et c'est là où je rejoins vachement nos désirs aussi, peut-être, de pas, on n'est pas des acteurs stars, en plus on se planque sous les masques, donc vraiment on fait un travail qui est au service. C'est ça aussi la transcendance, je crois, quand on reçoit quelque chose qui vient du ciel ou de la terre, hein. Moi je suis pas que vers là-haut, mais je crois d'être au service, c'est quelque chose qui est plus grand que nous, et je crois que ce sacré dont on parle beaucoup au théâtre, nous on le puise à travers ça. Le fait de poser cette matière, de poser aussi ces costumes, d'être dans ces lumières, et dans cette, ça nous transcende complètement. Quand je sors des possédés d'Ilfur, j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai joué, c'était pas moi. Et c'était donc un bel hommage aussi que de rendre ce thème de la possession dans ce spectacle qui est pour moi l'essence même de mon travail d'acteur, en fait. D'être au service de quelque chose qui est plus grand que moi, d'être un canal, d'être relié. Et puis je sais pas, bien sûr j'ai des outils, mais c'est pas juste ça. Mais j'aime bien cette notion-là d'être au service, voilà, qui est une réponse à posséder, à peut-être à subir. Et moi, je voulais plus subir, au contraire. Donc, effectivement, j'expose la possession et en même temps, oui, je guéris les démons, quoi.
Une réappropriation de ton histoire à travers ça qui se joue. Il y a quelque chose avec lequel j'aimerais terminer, c'est... votre rapport à l'espace, et je trouve que la meilleure pièce pour en parler, c'est certainement Clownstroom, avec cet espace absolument dingue. Bon, là, pour le coup, c'était assez unique, mais c'était un spectacle hors les murs, un espace qui s'appelle Les Chaudronneries, qui est donc une ancienne usine des années 20, je crois, de Montreuil, et qui aujourd'hui est un espace qui sert à plein de choses, mais qui garde ce côté très, très industriel, très usine, et il y a même, je serais bien emmerdé de vous donner le nom de cette chose sur rail qui bouge...
Un
pont sur rail, tout simplement, avec un crochet qui marche encore. Donc, y a vraiment, la magie opère encore. Je me demandais, je pense que cette question va s'adresser à la fois à ce spectacle, mais en général à votre travail, quel impact les lieux pouvaient avoir sur votre façon et de jouer, et même peut-être de créer, quand les lieux sont là dès la création. J'imagine que là, le spectacle, comme il tournait déjà, vous avez dû l'adapter à ça. Comment vous vous adaptez justement à ces lieux et à des lieux aussi forts que les Chaudronneries?
Oui, c'était vraiment un des premiers buts de ce spectacle. On l'a vraiment pensé comme ça. Il était pensé pour l'extérieur. C'était une commande du Festival Scène de Rue à Mulhouse en 2018, je crois. Et donc, c'est la première fois qu'on faisait ça. Là encore, c'était encore une première fois. Et on savait qu'il fallait que ça se fasse en extérieur. Donc, on s'est mis en recherche d'un lieu. Et avant même, je crois que vraiment le spectacle soit complètement écrit. Et une fois qu'on a trouvé ce lieu qui n'avait rien à voir avec cette usine, qui était sous la dalle du marché à Mulhouse, c'était un long couloir mi-intérieur mi-extérieur, une chose un peu, enfin aussi très brute, très apocalyptique aussi pour le coup, enfin un décor très différent. Et on a écrit aussi en fonction de ce lieu, et ce lieu devient la zone qui est l'objet de tous les fantasmes. Chaque personnage veut se réapproprier, veut diriger cette zone, donc cette zone dévastée, c'est tout ce qui reste du monde, c'est cet endroit-là, mais il n'y a rien sur cette zone, mais ils veulent quand même se battre pour en être chacun le chef. Et là, c'est vraiment notre plaisir aussi, c'est qu'à chaque fois que le spectacle est programmé quelque part, on essaie de trouver un lieu atypique, un lieu improbable, et qui va déjà agir sur les spectateurs avant même que le spectacle commence. Ils vont rentrer, il faut qu'ils se disent waouh, c'est quoi cet endroit. Et comme le disait Lionel, ça peut être c'est chouette, parce que souvent c'est des lieux qui sont dans les villes, mais que les gens dont les gens n'avaient pas connaissance, ils passaient devant sans savoir parce que c'était fermé, donc voilà, pour nous on fait un peu une gymnastique de répétition à chaque fois, parce que du coup le lieu influe beaucoup sur le spectacle. On change souvent la fin, etc. Donc ça, c'est rigolo, et c'est à la fois ça nous fait retravailler chaque fois le spectacle. Mais Clownstorm, c'est vraiment un cas particulier, parce que les autres spectacles, bon, après comme tout spectacle qui part en tournée, après on joue dans des salles et on doit s'adapter aux salles. On doit s'adapter aux coulisses, le rapport avec les spectateurs n'est pas le même, il y a plus ou moins d'ouverture, etc. Donc ça c'est autre chose encore.
Et pour le coup, c'est vrai, t'as raison, on change la fin quand même. Dans Clownstorm, elle est vraiment différente à chaque fois. Donc ça, c'est quand même un boulot, on a deux jours avant pour essayer de comprendre aussi comment ce lieu est fait, comment il pourrait nous ouvrir ces fins-là. Alors des fois, elles sont plus tragiques que d'autres. Voilà, je vais pas tout révéler, mais c'est vrai que elles peuvent être soit très optimistes, soit ouais, ça, elles dépendent
selon
vraiment
ce qu'offre, selon les possibilités du lieu, selon ce qu'offre le lieu. Mais après, l'espace, c'est vrai que c'est un travail, enfin c'est quelque chose qui est présent dès le début, quoi. Comment les images se forment dans la tête à partir d'un texte, à partir d'une idée. Très très vite, il y a un dessin, enfin il y a l'idée d'un espace, de comment les choses vont s'agencer, d'une ambiance, quoi, d'une atmosphère. Et puis on commence à rêver à des machineries théâtrales. C'est vrai que c'est tout aussi important dans la mise en scène. Enfin, il y a une vraie dramaturgie de l'espace aussi, tout comme il y a une dramaturgie des corps et des costumes. Il y a une vraie dramaturgie de l'espace. C'est quelque chose qui est très important.
Super, bah c'est ce sur quoi on va finir, mais merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci pour ces trois spectacles, et il y en a plein d'autres qui tournent encore, donc Zypher Z fait partie de ceux... Enfin, il ne tourne plus pour le coup, en tout cas pour l'instant, mais vous avez l'occasion, vous qui m'écoutez, mes parents quoi, de voir le travail du Moonstrom Théâtre un peu partout en France, et ça va être très très chouette. Voilà, merci beaucoup.
Merci à vous, Mathis.
Vous avez écouté le bonus de l'épisode 14 de Dramatis. J'espère que vous en savez désormais plus sur le Moonstrom Théâtre et que ça vous donnera envie de découvrir, de redécouvrir cet univers qui tournera partout en France à partir de cet été, mais la saison prochaine aussi. Dramatis, ça continue bientôt en indé. En attendant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Mathis Grosso. Mathis comme tout le monde est Grosso, comme un gros os. Vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram. Je vous parle de plein d'autres pièces que vous pouvez découvrir et de plein de thématiques qui traversent le théâtre. En attendant, allez au théâtre, dramatisez, parce qu'une vie sans drama, c'est comme une blague sans chute. Salut.